Si tout va bien, les Congolais se rendront aux urnes le 28 novembre prochain pour décider du sort de leur pays. Les élections de 2006 mirent en place l'actuel président Joseph Kabila et furent pour le peuple de la République démocratique du Congo une découverte de la culture de la démocratie. Les électeurs de 2011 détiennent maintenant un point de repère et désirent consolider la démocratie du pays. Je sonde la population de Lubumbashi, ville principale de la région du Katanga. Je parle à des étudiants, des membres de la société civile, aux gens dans la rue. Je m'informe de leurs espérances et leurs craintes face aux prochaines élections.
Merci beaucoup. Moi, c'est M. Eddy Mutombe. Je suis le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale.
Au Congo-Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est l'organe mandaté de préparer l'enrôlement des électeurs, le processus de vote et de dépouillement. Elle est supportée par la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, qui apporte une aide logistique pour le transport du matériel en brousse, car c'est en région que réside la masse électorale congolaise. L'éloignement et le sous-développement des populations rurales posent un défi de taille aux organisateurs des élections. Patrick est géologue. Pour son travail, il doit se rendre là où la plupart des Congolais ne mettront jamais les pieds.
Il y a des moments où nous allons faire la prospection dans des villages, vraiment dans le Congo profond. La dernière prospection qu'on avait faite, on est entré dans un village du côté de Moba, où les villageois nous disaient ça fait 30 ans qu'ils n'avaient jamais vu une voiture. Et tout le monde voulait monter dans la voiture. Vous imaginez un peu les niveaux du sous-développement. Et c'est vraiment très accentué.
Pour la région du Katanga seulement, un territoire de la taille de la France, la CENI doit installer 9600 bureaux de vote. La tâche doit s'effectuer en pleine saison des pluies sur un réseau de routes en lamentables conditions. La CENI affirme que les villageois auront à parcourir une distance maximale de 20 km pour se rendre au bureau de vote le plus près. Mais pour celui qui ne possède même pas un vélo, qui ne sait pas lire et qui n'a jamais voté, se rendre aux urnes peut sembler une idée absurde. Serge, étudiant en informatique à l'Université protestante de Lubumbashi, explique comment il est simple de manipuler les villageois congolais.
On a encore des sérieux problèmes, surtout au village. C'est peut-être ici on a un peu d'électricité, mais là-bas, ils n'ont pas d'électricité. Donc, c'est des gens qui ne connaissent rien. Ils ne savent pas que c'est leur droit d'être dans de bonnes conditions. C'est ainsi que quand les gens partent battre campagne là-bas, tu peux lui donner même un sac de riz. Ah, il te vote. Il te vote comme il... Donc, il ne comprend pas quand on vote, c'est pourquoi. Lui, il pense que tu es gentil puisque tu lui as donné un sac de riz. Notre pays n'arrive pas à amener l'information là-bas pour instruire les villageois. On les utilise, c'est ça. Un verre de sel, tu mets vote. C'est terrible, hein. Quand on plonge sa voix dans un verre de sel, c'est compliqué.
Quand leur voix n'est pas achetée, les villageois non sensibilisés ont tendance à voter par considération ethnico-tribale ou simplement sur ordre du chef du village. L'éducation au processus électoral est assurée en grande partie par la société civile. Joseph est membre de l'ONG Action pour le développement intégral au Katanga et participera aux élections en tant que formateur et observateur.
La société civile du Katanga joue un grand rôle parce que c'est elle qui est en train de jouer le rôle entre les gouvernants et les gouvernés. Nous disons aux gens, voter quand même utile, voir prochainement comment est-ce que le pays peut aller de l'avant. Il ne faut pas seulement voter pour un t-shirt, pour voter pour avoir ne fût-ce qu'un kilo de poisson. Non, voter utile pourvu que la nation congolaise puisse aller de l'avant et qu'on puisse avoir de bons dirigeants qui peuvent contribuer à un développement du pays.
Des observateurs et des policiers seront présents dans tous les bureaux de vote pour maintenir l'ordre et s'assurer qu'on ne tente pas de manipuler les personnes les plus vulnérables. La CENI s'affiche comme impartiale. Elle se dit disposée à rejoindre les 32 millions d'enrôlés le jour des élections. La dite neutralité de la CENI est remise en doute par les critiques qui la suspectent d'être liée à certains partis. On lui reproche aussi, tel que l'indique Emmanuel, étudiant en communication à l'UNILU, de ne pas avoir prévu de système pour les Congolais qui seront en déplacement le jour des élections.
En République démocratique du Congo, nous comptons 11 provinces. Imaginez qu'aujourd'hui, peut-être, il peut y avoir plus ou moins 2 millions de déplacés qui ont changé de province. Alors, ipso facto, ces 2 millions de Congolais qui ont juste changé de province seront privés de vote.
Radio Okapi est la radio des Nations Unies en RDC. En plus de tenir son journal en ligne, Radio Okapi opère 9 studios et collabore avec 27 radios partenaires pour couvrir une bonne partie du pays. Elle fait son effort de sensibilisation en diffusant 4 programmes spéciaux visant à vulgariser le processus électoral, répondre aux questions du public et offrir une chance aux candidats de présenter leur plateforme. Elle se veut neutre et tient une liste noire de pièces musicales à tendance politique dont la diffusion est interdite durant la période électorale.
Nous sommes appelés, aimables auditeurs, à travers les élections, d'aller sanctionner le comportement de nos dirigeants.
Les Congolais sont de grands consommateurs de médias. La radio et la télévision ont beaucoup d'influence au pays. La presse congolaise est payante et quiconque désire passer son message peut, moyennant un certain cachet, vendre son produit ou publiciser ses actions. On reproche aux principaux partis politiques de battre campagne avant la période électorale via leurs chaînes respectives. C'est ainsi, tel que l'explique Emmanuel, que les partis se livrent une véritable guerre par l'entremise des médias.
On se souviendra qu'en 2006, il y avait eu incendie de la chaîne Canal Congo Télévision, chaîne de M. Jean-Pierre Bemba, qui était à ce moment-là considéré comme le candidat de l'opposition qui s'était retrouvé comme challenger de M. Joseph Kabila à la présidence. Et cela, ça n'avait pas permis à nos amis de l'opposition d'exprimer volontairement ce qu'ils voulaient faire, ou soit présenter leur programme d'action au peuple congolais. Cette année, en 2011, avant même les élections, ce qui est plus grave est qu'il y a eu encore incendie de la chaîne RLTV, une chaîne pro de l'opposition. Alors, on a compris que nos amis au pouvoir ont tendance à déstabiliser l'opposition au travers le média, parce que la seule chaîne qui essaie un peu d'émerger pour exhiber à la face du monde les défaillances du gouvernement, cette chaîne est toujours poursuivie et pour finir, c'est toujours de l'incendie.
Il y a près de 150 partis politiques au Congo. On compte 18 000 candidats en course à l'Assemblée nationale pour 500 sièges. Un poste en politique est perçu comme une façon facile de s'enrichir rapidement et de bénéficier de toutes sortes d'avantages.
Quand vous êtes député en République démocratique du Congo, ça veut dire que vous avez le droit sur tout. Vous pouvez vous réveiller un petit matin et dire que cette parcelle m'appartient en tant qu'honorable député parce que vous jouissez de cette immunité. Ce sont des choses que nous vivons en République démocratique du Congo. Il y a également certaines taxes, parce qu'on est honorable député. On est bien sûr exclu à ne pas payer bien sûr ce genre de taxes. Or, c'est la taxe qui contribue bien sûr au progrès d'un pays.
Les deux partis qui ont le plus de soutien sont le Parti pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, et l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le parti de l'opposition officielle. Les partisans de l'opposition doutent de la volonté de Kabila à céder le pouvoir et espèrent que s'il y a changement de gouvernement, la transition se fasse dans la paix.
Le Congo, c'est un pays post-conflit. Depuis 1998, nous avons perdu plus de 4 millions de nos frères. En tant qu'activiste des droits de l'homme, ce que je peux recommander à nos acteurs politiques, c'est de prendre la responsabilité, d'accepter l'échec ou la réussite. En tout cas, que tout se passe sans effusion de sang. Nous n'en avons plus besoin.
Bernadette Capend est candidate à la députation nationale pour l'UDPS. Elle fait partie du maigre 12% des femmes qui ont soumis leur candidature. Selon Bernadette, la faible représentativité de la femme dans les instances de prise de décision est due à la pesanteur culturelle, à la pauvreté et au manque d'éducation. Il est traditionnellement anormal qu'une Congolaise occupe un poste de gestion et ses revenus sont habituellement gérés par son mari. Son éducation est perçue comme superficielle.
Les parents préfèrent amener facilement un garçon à l'école qu'une fille et préfèrent payer les études d'un garçon que d'une fille, puisque la fille, dans la plupart des familles, surtout au village, on considère la fille comme une étrangère dans sa famille. À un certain âge, elle est appelée à quitter sa famille pour s'attacher à son mari et à la famille de son mari et à disparaître. Pourquoi on va faire autant de dépenses d'investissement pour une personne qui va être appelée un jour à quitter la famille, qui ne va pas ramener la richesse à la famille, qui par contre va ramener la richesse, même si elle pouvait travailler, là où elle sera. Vous voyez, ça mène à ce que le fils n'accède pas facilement à des études qui le permettent de se positionner dans des postes de responsabilité. Après, il y a l'ignorance. La femme s'informe difficilement. Elle ne connaît même pas qu'est-ce que les élections, quand est-ce qu'il y a élection et quel poste je peux briguer, etc. Elle n'a même pas parfois de poste de radio. Et le poste de radio appartient aux hommes. Pour être informée, elle ne sait même pas lire les journaux pour connaître les nouvelles de son pays, ni les autres instruments juridiques qui parlent des élections, qui parlent du pouvoir. La femme ignore totalement tout ça.
On peut noter beaucoup de progrès si l'on compare à la campagne de 2006. Les villageois sont plus méfiants et les organisateurs mieux préparés. Le processus n'est pas parfait, mais n'oublions pas que les élections de 2011 ne seront qu'une seconde expérience et que ce qui a été accompli en 5 ans est impressionnant. Je laisse le mot de la fin à l'activiste Patrick, qui s'adresse à son futur gouvernement en espérant qu'il dirige le pays de façon propre et juste.
Nous avons comme l'impression, nos dirigeants, pour eux la politique, c'est l'art de mentir. Donc ils viennent avec des beaux discours, avec des slogans, tolérance zéro, l'ère de la récréation est finie, mais sur le terrain on ne voit rien. Il y a l'argent du trésor public qui est expolié, pillé. Il y a nos richesses minières, nos richesses de flore et faune sont saccagées sous nos yeux. Et on étouffe. Quand vous voulez revendiquer, ce sont des enlèvements, ce sont des emprisonnements. Et sans suite, la corruption, l'impunité, vraiment ce sont des vices qui rongent. Et nous souhaitons au président qui sera élu qu'il puisse militer sur ça. Que la politique ne soit pas l'art de mentir, de la plaisanterie. Hein? Ça nous fait honte. Nous voyons quand même les nations, nos nations africaines ici. Hein? La Zambie, l'Angola, qui émergent. Ça nous fait mal, ça nous fait très mal, ça nous fait très mal. Et nous voyons notre avenir, comment sera notre avenir, hein? Donc, nos politiciens doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent travailler. Quand vous êtes élu, c'est pour servir le peuple, ce n'est pas pour vous enrichir.
C'était un reportage de Jean-Philippe Marquis à Lubumbashi, au Congo-Kinshasa.